There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Dans cet épisode, je reçois ma copine Margot, 31 ans, qui a quitté Paris pour Londres après une rupture amoureuse. On parle donc de sa rupture, de son arrivée à Londres après avoir quitté son taf et tous ses repères à Paris, des applis de rencontre et des mecs qui ghostent. On parle aussi de dépression, d'apprendre à tolérer sa propre compagnie pour ensuite l'apprécier, d'être fière de se débrouiller seule, de son modèle familial très traditionnel, de l'importance de sa carrière actuellement et du plus d'avoir quelqu'un dans sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira, un épisode est prévu chaque dimanche matin. Si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Un grand merci à Margot pour sa confiance. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
Ok Margot. Ok Léa. Salut.
Ah, ça me fait rire d'enregistrer avec toi.
C'est trop marrant.
Et je sais pas ce qu'on va se dire.
Mais je sais pas non plus.
Alors, trop contente de t'avoir là. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais quand même un petit peu. Est-ce que tu peux
Un petit peu.
Me dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, où tu habites par exemple.
Je m'appelle Margot, j'ai 30 ans, 31 cette année, mais bon, c'est juste 30 ans et des poussières. Hein. J'habite à Londres, je travaille chez TikTok, bientôt je travaillerai chez Pinterest. Je suis en train de changer de travail, je fais du marketing, des pubs, des trucs un peu sympas. Je suis la... J'aime bien dire que je suis la hype girl. J'aime bien dire aux gens, vas-y, viens, c'est cool. Allez, sympa, c'est sympa. Viens par là, tu vois. Souvent, c'est comme ça que je décris mon métier parce que je sais pas trop comment décrire, à part que je fais du marketing et de la pub, en gros, au truc créa. J'ai TikTok, maintenant chez Pinterest, bientôt. Et avant, j'habitais à Paris et je travaillais chez Mademoiselle.
Et on s'est rencontrés
c'est
chez
comme
Mademoiselle.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
C'était quand?
C'était, écoute...
2002.
En 2014. Oui, en sixième. C'était en 2014. Mais quand on a vraiment commencé à travailler ensemble, c'était en 2015.
Ok.
Toutes les deux, avant que j'arrive à temps plein, quand on a commencé à faire les vidéos de cuisine. Et voilà.
Ça fait un petit moment. Et t'es partie combien de temps après? T'es partie en quelle année à Londres?
Je suis partie en septembre 2017.
Donc ça fait 5 ans.
Quasiment 5 ans.
C'est old status.
J'ai toujours aimé Londres. C'était un peu mon but depuis le début, quand j'ai commencé à faire des études, etc. C'était vraiment le truc. Même si j'étais pas sûre du métier, je m'étais toujours dit, bah, n'importe, mais j'irai vivre à Londres. Et puis, au milieu de mes études, j'ai eu le truc chez Mademoiselle. Où, moi, à la base, j'avais juste un blog de cuisine où j'écrivais n'importe quoi. C'était pour mes potes. J'écrivais mes recettes. Enfin, tu me connais, avec des gros mots, des blagues de cul et des blagues de kika. Au milieu des recettes, ça, comme ça, ça a l'air dégueu, mais en vrai, c'est marrant. Franchement, c'était marrant. Et j'ai été remarquée comme ça. J'ai commencé à mi-temps avec mes études et j'ai fini à plein temps. Et voilà, ça a été un peu l'écart de parcours qui a fait que j'ai travaillé à Paris. Mais le but, depuis le début, c'était un peu Londres. Et puis, quand j'ai fini chez Mademoiselle, c'était un peu le moment où, en même temps... Et là, ça fait un peu transition avec le sujet du podcast.
Alors, amour.
En même temps, voilà, ma relation de l'époque finissait. Et je me suis dit, vas-y, plein de me retiens vraiment à Paris. Donc, je suis partie à Londres. Et voilà.
T'as laissé l'aventure, ton appart à...
L'aventure a commencé. J'ai laissé mon appart à ton ami, à ton pote, qui était très sympa, qui m'a aidé à sortir tous mes sacs à la fin.
Mais je l'aimais bien, cet appart. C'est pour ça que je suis contente qu'il y soit encore.
Il était chouette, cet appart.
Oh,
il est toujours ?
Ah oui, il est toujours.
Ah, il kiffe. Je crois qu'il a déménagé.
Non, le seul problème, c'est la laverie.
Ouais, voilà. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver. Ouais. Et la laverie, il y a toujours du drama.
Oui.
On y va, il y a des darons qui se battent, il y a des slips qui volent. Faut pas mentir, c'est quand même...
C'est pas...
C'est une ambiance.
C'est l'ambiance.
C'est une ambiance.
Faut y aller dans le mood. Moi, j'ai jamais autant apprécié une machine à laver que depuis que j'ai déménagé.
T'en as une. Du coup, on est là pour parler d'amour, Margot. Est-ce que... Je sais que t'adores. Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour actuel? Et après, on reviendra sur avant.
Oh là là. Alors, mon rapport à l'amour actuel, j'ai mis longtemps à l'avoir. Mais là, je suis vraiment... Je ne sais pas si c'est parce que je change de job ou que je suis un peu bien dans mes pompes et que... voilà. Mais là, je suis vraiment... Et c'est con, mais je l'ai dit... En fait, je l'ai dit... je le dis sur les applis de rencontre quand j'y suis, ou je le dis même en entretien pour un job, que pour moi, l'amour ou parfois ben, le travail, ce que j'attends de ça, c'est que ce soit vraiment juste un truc qui rend la vie encore plus cool qu'elle est déjà, tu vois. Parce que j'ai vraiment bossé pour, que ce, pour qu'elle soit cool pour moi, et je me suis débrouillée toute seule. Et ouais, je me suis vraiment acharnée à faire un truc cool pour moi, où je me sens bien dans mes pompes. Donc là, vraiment, mon rapport à l'amour, c'est que vraiment, si ça ne m'apporte pas un truc en plus, et si ça ne m'apporte pas un truc... je me sens genre, ouais, j'ai un peu, ça me fait vraiment plaisir et tout ça, je préfère pas, quoi.
Et ça, tu le dis sur les apps, c'est-à-dire ? T'annonces quoi ?
Bah, en fait, tu vois, sur Hinge, c'est l'appli où je suis actuellement.
On a ça en France ou c'est juste là-bas ?
Je crois qu'il y a ça en France, mais il n'y a pas tant de gens encore. C'est censé être le truc pour les gars sérieux, mais en fait...
Comment ça, pour les gars sérieux ?
C'est censé être l'appli qui est faite pour être supprimée, mais en fait, tu la supprimes parce qu'il y a trop de bolos, tu vois.
Ok.
Et non, en vrai, c'est censé être un peu pour des relations plus... c'est anti-hookups, quoi, anti-machin. Moins Tinder, moins Bumble, etc. Et il y a, en fait, le format du profil, c'est que t'as genre des photos, et il y a 3 prompts, qui s'appellent ça. Mmh. Et donc, tu choisis parmi plein de questions, tu en choisis genre 3, et tu peux répondre des trucs à la con. Moi, par exemple, j'ai... qu'est-ce qui est overrated ? Et j'avais mis genre les... une opinion qui est pas contre, enfin qui est un peu controverse, controversial. Pardon, je vais mettre des anglicismes partout parce que je parle jamais français en fait. Qu'est-ce qui, comment gagner mon cœur, c'était ça mon truc.
Okay.
Et j'avais mis genre que je recherchais quelqu'un pour les good vibes et qui rende ma vie encore plus cool qu'elle est déjà.
Ouais.
Et entre parenthèses, j'ai mis ou alors juste quelqu'un qui me lit de la poésie dans le bain. ça me fait plaisir aussi. ça compte dans les vibes et du coup j'ai mis ça.
Ok.
Voilà.
Est-ce que t'es beaucoup sur les applis de rencontre ?
Il y a eu des périodes où j'y étais beaucoup, beaucoup. Où j'avais genre 3 applis en même temps. Voilà. Des périodes où j'avais plus rien du tout. Et là, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai eu un gros seum, un gros truc qui m'avait bien foutu le seum. Un bail pourri, quoi. Et j'avais tout supprimé. J'ai plus été sur les apps pendant un moment. J'ai un peu focus sur moi-même, un peu focus plutôt... sur le taf, etc. Et je suis sortie d'une période un peu compliquée perso et tout. Aucun rapport avec l'amour, mais juste relou, quoi. Donc j'avais tout supprimé. Et là, je suis de retour sur Hinge depuis peut-être 6 mois, un truc comme ça. Et j'ai l'impression de revivre un autre truc de dating parce que j'ai une autre approche et que je suis pas dans le besoin, tu vois, de rencontrer quelqu'un absolument. Il me faut pas quelqu'un pour compléter ma vie parce que ma vie est relativement cool. Disons-le carrément cool en ce moment. Et donc, voilà, j'y suis un peu. Parfois, je regarde. Parfois, voilà, j'ai des dates de ci, de là. Et si ça ne le rend pas top, ben, j'arrête un peu. Mais là, en ce moment, je change un peu de vie avec mon nouveau taf, etc. Donc, je suis un peu... Je me dis, vas-y, j'ai pas envie qu'un mec vienne tout gâcher. vienne tout gâcher, là, avec ses sales pattes. Et c'est vrai que, tu vois, tu t'habitues à être toute seule et à construire ta vie solo. Et... Par exemple, il y a un type qui est venu chez moi pour un date et tout ça. À un moment, il va se laver les mains dans ma salle de bain. Et j'étais dans ma cuisine et je me disais « Il y a un type dans ma salle de bain Dégueu !»
Mais il se prend pour qui, lui ?
Mais c'est ça, tu sais, genre, il relève pas la lunette et tout. Je suis là « Attends, t'es chez qui, là ?» Et tu sais, c'est le truc, j'ai un peu ce rapport de... C'est cool de rencontrer des gens et de voir où ça peut mener, etc. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de... J'ai pas envie qu'il ruine le truc pour lequel j'ai beaucoup bossé. Donc c'est un peu... Je suis un peu on and off, quoi, en ce moment.
Le truc pas cool qui t'est arrivé, c'était un truc pas cool en amour ou un truc pas cool de la vie ?
Un peu de tout. Bon, et il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai eu un peu un coup de dépression. Moi, j'étais persuadée que c'était autre chose, que j'avais genre pas assez de vitamine D. J'ai été voir le docteur, on a fait tous les tests de sang. Tout est revenu hyper normal, pas de cholestérol, pas de truc et tout. Il m'a dit, j'ai dû lui expliquer un peu tous les symptômes, et il m'a dit, en fait, vous faites une dépression, là, mademoiselle. et il y avait pas mal de trucs, ma meilleure amie était malade, j'étais dans une coloc pourrie, un peu, vraiment, hyper négative, et tout période. Ça. Donc c'était vraiment une période pourrie, et j'étais un peu dans des vieux bails de se rappeler d'un type dont j'étais amoureuse, et donc j'ai un problème, tu sais, de loyauté, où moi je suis loyale, même si le mec, il sait même pas que j'existe, tu vois. Le mec, il est là, il vit sa vie, il sait pas que je suis là, et moi, je suis là, je serai loyale à lui. Comme ça, si un jour, il tombe amoureux de moi, et qu'il me remarque, je lui dirai, j'ai pensé à toi tout le long, moi. J'étais là tout le long. En fait, ça ne sert absolument à rien, parce que je ne vivais pas ton mari, et j'étais vraiment très déprimée, et toute seule, et donc j'ai un peu fait des pauses. Entre temps, j'ai changé de boulot, j'ai commencé TikTok et ça m'a permis de vivre solo, de plus être en coloc. Mmh. Donc là, j'ai vraiment pu, tu vois, apprendre à kiffer la vie toute seule, à me remettre à cuisiner, à me remettre à, tu vois, faire des trucs pour moi et décorer pour moi. Et ça m'a vraiment aidée, même si c'était le confinement et que j'étais solo. En fait, je préférais me sentir solo avec moi-même que de me sentir solo entourée, ce qui est le pire. Je trouve que c'est le pire truc quand tu te sens solo. Et voilà. Et évidemment, aussi, le truc des applis de rencontre, ça peut vraiment te miner. Ou, tu vois, parfois, t'as des dates et tout ça, et puis le mec peut te ghoster ou genre juste être un gros con et c'est sorti de nulle part. Donc, tu le prends hyper perso au début quand tu vois, t'es un peu nouvelle. Donc, comme moi, j'avais plein d'autres trucs qui s'ajoutaient à l'époque. Je crois que j'ai eu un ou deux gars qui m'ont ghosté à la suite, plus tous mes problèmes perso. Et j'étais là, vas-y, c'est bon, en fait, ça dégage.
Comment t'étais dans ces moments-là où les gars étaient en train de te ghoster? Est-ce que tu t'essayais, toi, de retrouver un lien avec eux? Ou comment tu le vivais?
Ben, en fait, moi, j'avais un peu ma fierté, donc j'essayais de pas trop leur dire. Mais en même temps, j'avais un peu ce truc de... J'aimais bien les faire chier. J'aimais bien, en fait, les forcer à expliquer. J'aime pas le truc, tu sais, de ghoster et de rien dire, parce que moi, je suis assez directe. Dans la vie, je dis les trucs assez facilement. Et le truc de juste ghoster, ça me saoulait de ouf, parce que je trouvais que c'était pas correct. Donc, j'étais là, souvent, parfois, je leur envoyais des textos, genre, bah, sois clair, en fait, qu'est-ce que tu veux Et tu sais, c'était juste le truc, parce que moi, j'étais pas en mode fou la brosse d'eux, ou j'en sais rien. C'était, tu sais, le principe
le respect, un peu, quoi.
D'irrespect, quoi. Et j'avais un peu... En fait, j'avais aussi un peu ce truc de me dire, rupture à Paris que j'avais eue, qui était un peu pourrie, plus histoire pourrie que j'avais eue à la suite, qui m'avait un peu fait sentir que, ok, en fait, dès qu'on apprend à me connaître, on n'a pas envie de me connaître et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Et donc, j'avais complètement adapté ce truc de ghosting comme si c'était complètement en rapport avec les trucs qui me sont arrivés à Paris ou un peu après. Ouais. Alors que, enfin, aucun rapport, quoi. Et voilà, ça m'a un peu, ça m'a un peu foutu des bâtons dans les roues. Donc, je les compte pas. Ces années-là, je les compte pas comme des vraies années de dating parce que c'était genre, j'avais un date, le truc se passait mal, j'arrêtais de dater pendant, tu vois, 6 mois, quoi.
Et tu parles de ces années-là quand t'es arrivée à Londres, du coup,
que
t'as commencé.
Quand je suis arrivée à Londres. Donc, c'était, ouais, les 3 premières années.
Est-ce que tu veux bien parler de ta rupture parisienne qui t'a amenée à Londres? Ou c'est un sujet un peu sensible?
Non, maintenant ça va. On s'est rencontrés quand on avait chacun 20 ans. Et lui, à l'époque, il était en Erasmus. Moi, j'étais à Paris. Donc, on a commencé en relation un peu à, entre guillemets, à longue distance. Et même quand il est rentré, lui, il était du Sud. Donc, on était à longue distance même à ce moment-là. Mais on s'est rencontrés via une copine qui voilà, s'est dit « Ah, vous êtes tous les deux célibataires. » Et donc, on est restés ensemble. On a emménagé à Paris ensemble après peut-être 3 ans de relation.
Donc, lui est venu te rejoindre à Paris.
Il est venu me rejoindre à Paris. Il a trouvé un job à Paris. Mmh. En fait, à partir du moment où on a habité ensemble, ça, c'est un peu... On a réalisé qu'on n'avait pas la même manière de vivre, les mêmes... standard. Et moi, mes efforts, c'était un peu de faire comme si j'existais pas dans l'appart, clairement. De pas, voilà, d'avoir exactement la même manière de faire les choses que lui. Et lui, ses efforts, c'était de ne pas me parler comme une merde. Pardon, mais écoute, aucun filtre, mais je pense que maintenant, sans rancune. Hein. C'est vrai que, voilà, c'était un peu... C'est comme si on parlait pas la même langue, tu vois, et que chacun se sentait blessé de l'autre, mais sans se comprendre, quoi. Et donc, ça a été très long, mais on s'aimait quand même beaucoup. Et moi, ça a été long pour comprendre qu'il fallait partir. Mais en même temps, ça me niquait un peu toute ma confiance en moi. Donc, il y avait des trucs que je faisais pour regagner confiance en moi qui, lui, il se voulait comme une attaque, comme si je m'en fichais de lui, mais en fait, pas vraiment. Et j'avais l'impression de me battre pour le truc pour que ça marche et qu'en face, lui, pas trop. Et puis, à la fin, en fait... un matin, j'ai dit, je pense que c'est fini, non? Enfin, non, avant ça, je pense qu'un truc important, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de mois, peut-être un an, où j'étais là, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, je suis quand même souvent malheureuse.
Mais t'arrivais à lui en parler, ça, ou c'était quelque chose que tu gardais?
Ouais, mais à chaque fois, les conversations partaient dans le « ah, mais c'est toujours ma faute », ou « il y avait toujours un peu un mieux », mais je parlais avec mes meilleurs amis, avec toi, et à chaque fois, c'était un peu « en ce moment, ça va », mais en fait, tu vois, une relation, ça doit pas être « en ce moment, ça va », tu vois, c'est censé être « la plupart du temps, ça va », et parfois, il y a des trucs où ça va pas, quoi. Et clairement, ça collait plus, on avait plus les mêmes genres d'amis, plus les mêmes attentes, plus les mêmes objectifs de vie, et puis au bout d'un moment, je me rappelle qu'on a eu une conversation sur, c'était pour nos 5 ans, on a parlé de « est-ce qu'on voulait toujours des enfants, l'un et l'autre, plus tard ?» On n'a jamais voulu, tu vois, tirer tes enfants ou quoi, mais on parlait... dans le futur, et lui il m'avait dit qu'il savait pas trop s'il voulait des enfants parce qu'il avait peur d'être aussi sec avec eux qu'avec moi, ou aussi direct avec eux qu'avec moi, Et moi, je me suis dit, non, en fait, c'est vrai, je veux pas trop ça pour mes enfants. Et après, j'ai un peu réalisé, ah, mais en fait, je veux pas ça pour moi non plus. Je mérite un peu mieux. Et je suis partie à Londres pendant une semaine pour voir ma meilleure amie qui vit là-bas. Et on a discuté avec des potes à elle aussi. Et je disais, non, mais c'est vraiment un mec bien, c'est vraiment un mec chouette. Mmh. Et une de ses potes m'a dit, mais enfin, tu peux quitter un mec bien, c'est pas grave. Ouais. C'est pas la. Enfin, ça peut vous libérer tous les deux. Et puis, enfin, ça n'avait rien à voir, en fait, un mec bien ou pas. C'est juste que là, la façon dont lui se comportait et moi, quand je me comportais, ça ne collait pas ensemble, nos personnalités ne collaient pas. Donc, quelques semaines après que je sois revenue, on parlait un matin, on venait encore de s'engueuler et je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que c'est fini, non ? Et il m'a dit, ben ouais. Et voilà, c'était fini.
Et ça s'est détérioré, tu penses, à partir du moment où vous avez vécu ensemble ?
Je pense qu'à partir du moment où on a vécu ensemble, ça a été plus visible. Mmh. Mais avant ça, déjà, il y avait pas mal de signes avant-coureurs qui n'étaient pas... D'autres trucs... Ouais, où c'était pas toujours clair-clair, ou des tensions. Où... Par exemple, si on se disputait, lui, il avait vraiment besoin d'être en mode silence et de me donner le silent treatment, ouais, comme on dit, de vraiment plus me répondre, plus me parler. Et moi, je disais juste un truc... Je l'appelais, je lui envoyais des messages. Enfin, réponds-moi au moins un truc. Il disait, en fait, là, je veux pas te parler parce que sinon, je vais te faire du mal. Et ça, c'était le truc, ça me brisait le cœur et j'avais l'impression d'avoir fait un truc affreux. Et lui, c'était sa façon de me protéger, entre guillemets, pour lui. Mais en même temps, pour moi, c'est affreux. J'étais trop mal. Et parfois, il y avait des engueulades de trucs où moi, je lui parlais d'un truc et lui, il disait, mais t'insistes toujours là-dessus, t'es un peu... Enfin, cela était un peu sur le truc parce qu'après coup, il me disait... En effet, il y avait tel truc, c'était pas net, etc. Donc ça m'a rendu un peu ouf. Et je pense que c'est des petites choses, tu vois, qui n'étaient pas... C'est pas genre, ah, le connard qui a machin, mais c'était plus des choses qui ont fait que ça m'a un peu cassé petit à petit. Ça a mis des petites fissures, et le fait de vivre ensemble, ça a cristallisé tout, en fait. Et... Ouais, ça s'est fini.
Comment t'as vécu cette rupture ? C'était ta première vraie rupture ? C'était ta première vraie histoire ?
Ouais, une longue histoire. C'était un peu dur parce que comme on s'est rencontrés quand on avait juste 20 ans, on a grandi ensemble. Et c'est toujours plus dur de rompre avec quelqu'un, de rompre avec sa famille aussi, tu vois.
Ouais.
Genre, depuis... ça fait bizarre. Et aussi, nous, on a vécu ensemble encore pendant deux mois et demi après. Donc c'était un peu long, c'était compliqué. Et sur le coup, la rupture, j'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que ça allait pas, que ça m'a fait du bien.
T'étais soulagée un petit
peu. C'est ça. Mais après, pendant... peut-être 2-3 ans, j'avais vraiment ce truc de... Mais attends, c'était pas cool, ça. Tu sais, le truc de... Ah, mais attends, c'était vraiment pas top, en fait.
Des comportements qu'il a eu envers toi.
Ouais, et de réaliser un peu tout, et après de me dire... Ah, mais il m'a pété, en fait. Il m'a cassé en mille morceaux, et moi, maintenant, je sais plus avoir de relations normales. Et surtout, en fait, le truc, c'est que juste avant de partir, à Londres, j'ai appris qu'il avait déjà une copine. Ouais. Et que ça faisait qu'il m'avait plus ou moins remplacé direct, et qu'il était avec, même quand on vivait encore ensemble, et qu'il se comportait pas idéalement quand on vivait ensemble. Et donc ça m'a vraiment saoulée. Et ouais, ça m'a fait un peu... Ça m'a fait bizarre. Et sur le coup, je me suis dit, c'est pas juste, en fait, parce que c'est lui qui remplace alors qu'il a été trop nul. Et, et en fait, ça avait aucun rapport. Et
c'est pas juste dans la rupture.
C'est ça. Et moi, j'avais l'impression d'être pétée. Et quand je suis arrivée à Londres, en fait, à chaque fois, je m'excusais de tout, en fait. J'ai renversé un verre de lait sur la table chez ma meilleure amie quand j'ai emménagé chez elle au début. Et j'étais là. En fait, j'ai fait une crise d'angoisse. Je suis devenue toute rouge. J'ai tremblé. J'étais là, je suis désolée. Et j'ai été chercher une éponge. Et le mec de ma meilleure amie était là. Vraiment, c'est pas grave. Et il a dit, mais enfin... Ça t'arrive souvent, t'angoisser pour un verre et tout.
C'est vrai que ça t'arrivait beaucoup quand même à l'époque. Je me souviens de moi qui te dis, mais pourquoi tu... C'est genre qui m'énerve. Mais pourquoi tu t'excuses là? T'arrêtes là?
C'est ça.
Il n'y a pas de galère, de quoi tu me parles?
Et j'étais vraiment stressée. Ouais. Et j'avais toujours l'impression d'être... Enfin, d'être cradée. Qu'en fait, personne n'allait m'aimer s'ils apprenaient à me connaître. Et que c'était moi qui avais tout gâché. Et évidemment, ma famille, sur le coup, après, m'ont complètement soutenue. Et m'ont dit, mais c'est la meilleure décision que t'as fait.
Ils n'ont pas compris.
Mais sur le coup, m'ont dit, mais tu vois ce que ça te fait, ton féminisme, d'être toute seule, de laisser le seul homme, qui, le seul mec qui voulait bien de toi, tu vois. Et c'était un peu violent. Puis comme en même temps, je partais à Londres, ça faisait vraiment, non mais elle est devenue folle.
Oui,
elle quitte son job, elle quitte son mec, elle part dans un autre pays, qu'est-ce qui lui prend, tout ça. Donc c'était un peu compliqué.
Et mon chien qui ronfle à côté.
J'aime trop.
Quand t'es partie à Londres, t'étais là avec tes petits bagages et tout dans l'Eurostar. Donc tu venais de quitter ton mec, ton taf.
Encore mieux, j'étais dans la voiture.
T'étais dans la voiture.
Je suis partie en voiture.
Ah, c'est vrai, avec Perrine.
Ma meilleure pote et son mec.
Il revenait de Bretagne.
Ouais, voilà.
Putain, je m'en souviens, moi qui n'ai aucune mémoire, je m'en souviens
en
quand
France.
Même.
Et sont passés chez les parents de ma meilleure pote avant. Et moi, c'est le père de ma meilleure pote qui est venu me chercher dans mon appart et tout. Bah, avec ton pote qui nous a aidés pour les bagages, Didier, ouais. Qui a repris mon appart. Big up dédié. Et à partir... J'étais tellement stressée. C'était vraiment... J'ai fait un meltdown complet. J'avais plus aucune thune. J'étais sur mon pauvre SMIC à la fin. Là, j'avais plus rien. J'étais malade. J'avais chopé une angine avant. J'avais mon visage qui avait gonflé. J'avais une tonne de meubles à démonter. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et j'avais vlogué. Et tu vois sur le vlog, le truc juste avant. Tu sais, juste avant, quand je suis vraiment au bout de ma vie, en train de suer. Genre, j'ai pleuré toute la nuit, en train de tout démonter et tout ranger, etc. Et faire, je sais pas comment je vais en sortir. Et d'un coup, il y a cut. Et je suis genre chez les parents de Perrine, fraîche, je viens de manger du couscous, je suis refaite. Et ça a été parti. À partir du moment où je suis partie de l'appart, j'étais bien.
Comment t'étais quand t'es arrivée à Londres, comment t'étais émotionnellement?
Émotionnellement, j'étais au début, j'avais pas trop le temps de penser parce que je venais d'arriver, j'étais un peu contente, j'étais chez ma meilleure pote, ça faisait comme si j'étais en vacances, tu vois. Et très vite, au bout de peut-être 2 semaines, je me suis dit, oh là, il faut vraiment que je trouve un travail. Mine de rien, j'ai jamais eu les moyens d'économiser, donc les seules thunes que j'avais sur mon compte, c'était mon SMIC. Et vraiment, donc j'ai paniqué, j'avais l'impression que j'allais jamais trouver de travail, que voilà, donc j'étais toute la journée, j'étais sur mon ordi à essayer de trouver un taf. Le mec de ma meilleure amie était là, viens, on va promener les chiens, te calmer un peu. Ouais.
Tu t'es dit à un moment, genre c'est une connerie là, tout ce que je fais?
Non. Trop non, bien. Vraiment, j'étais là, non, franchement là, non, il faut que je fasse ça. Mais c'est juste, j'étais contente d'avoir pris du recul pour me remettre des trucs. J'étais consciente en partant que ça allait pas effacer tous mes problèmes, tu vois, que j'allais pas, je voulais pas fuir de mes problèmes en partant à Londres, c'était mon but depuis le début, mais que ça me faisait du bien d'être loin de Paris, loin de mon ex, loin de Mademoiselle, loin des gens que je connaissais de tout ce milieu, internet, vidéo, blabla, et de vraiment prendre du temps, tu vois, et de pas avoir tous ces trucs là pour réanalyser le truc, quoi, et pour me remettre. Donc, ma priorité, ça a été de trouver du boulot. Et j'ai eu l'impression que ça a pris pour toujours, alors qu'en fait, j'ai trouvé...
hyper vite.
J'ai emménagé en septembre. J'ai commencé octobre, le 23 octobre, un truc comme ça. Mon premier taf, chez Vision Direct, lentille de contact, livraison 24 heures. et voilà, et ça a été beaucoup. C'est après que j'ai un peu plus pensé, quoi.
Pourquoi après?
Après coup, quand tu n'as pas encore vraiment de potes, moi, je connaissais juste ma meilleure amie ou mes collègues. Sur le coup, t'es là, oh là là, est-ce que j'aurais dû mieux me préparer? Est-ce que j'aurais dû mieux, blablabla? Parce que je m'étais pas du tout bien préparée. Il y avait plein de trucs de thunes à régler, et de ma Freebox. Je l'ai jetée, en fait, en partant. Je l'ai jetée parce que je pouvais pas l'envoyer. J'avais genre, vraiment, il me restait 5 balles sur mon compte.
Ouais.
Donc c'était soit je rachetais un peu de bouffe pour manger, soit j'envoyais ma Freebox, mais après
mais t'aurais dû me dire, j'aurais pu te la renvoyer.
Mais c'est ça, mais en fait, il me fallait ma Freebox pendant 1000 ans pour pouvoir imprimer les derniers trucs, etc. Mais c'est ça, mais tu sais, après coup, maintenant, tu vois, je suis là, j'aurais dû la filer à mes parents, j'aurais dû la filer à Léa ou à Diadie.
Ouais, mais là, c'était trop pour toi.
Et
voilà, quoi.
Et c'était trop, il y avait trop de trucs, et juste changer de vie, j'étais vraiment en mode choc et tout ça. Et moi, en fait, j'étais devenue allergique à l'appart, allergique à tout. J'étais là, en fait, il faut que je me casse, partir, Et j'ai jeté ma Freebox, après Freebox m'a harcelé que je devais leur payer 600 balles et tout ça. Puis en fin de compte, à la fin, ils sont dit, écoutez, si vous payez juste 150 balles, on vous harcelera plus. Et moi, j'étais là, oui, je vous paye tout de suite. et voilà, enfin, tu sais, c'est des trucs à la con. De juste de meuf qui est en dépression nerveuse, limite, tu vois. Et voilà, je suis partie comme ça. Mais après, je me suis jamais dit, j'aurais jamais dû partir, mais il y a des moments où j'étais là, c'est dur. Ouais, là, c'est dur. Mais après, j'avais des potes qui avaient emménagé à Londres avant et qui m'avaient dit, dans les 2 premières années, t'as des gros doutes. T'es là, genre, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et ouais. Mais après, je me suis toujours dit que je préférais être déprimée dans une ville comme Londres et tout, où je me sens bien que juste dans un endroit où je me sens pas trop chez moi, quoi.
Comment t'as fait pour te remettre de cette rupture quand t'étais à Londres? Parce que ça a mis du temps.
J'ai fait une petite tête, là. Que j'ai pensé, j'ai niqué. Mais je.
Bah écoute,
c'est très bien. Très efficace. Non, mais en vrai, c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand je suis arrivée à Londres, quelques mois après, j'ai eu un coup de foudre sur un type.
Ouais.
Qui, mais bah, tu vois, quand je te dis loyal pour rien. En fait, pas vraiment un coup de foudre, mais un truc de ok, ce type-là, tous les coups, je vais le kiffer, tout ça.
Et c'était qui ce type?
C'était un de mes collègues. La honte. Et vraiment, moi, je détestais les trucs de travail et tout,
mais
tu vois.
Allez.
Mais voilà, mais j'étais un peu genre, oh là là, puis en même temps, j'étais un peu encore en kiff sur un mec que je kiffais en France, et ouais. que je me disais, vas-y, avec, à qui j'avais jamais admis que je kiffais, etc. Et ça s'était pas fait en même temps que mon ex, ou j'en sais rien, parce que voilà, il y a eu quelques mois entre que les écouteurs ne se disent pas, mais quelle salope c'était vraiment plusieurs mois après avoir rompu, où il y avait un peu eu un truc, et ça s'était pas fait, mais en même temps, je me suis dit, et si jamais, et voilà. Puis en arrivant à Londres, il y a eu ce type qui était voilà, un de mes collègues qui était devenu un de mes meilleurs potes du coup. Et bon, évidemment, je lui ai jamais rien dit parce que au début, je savais pas qu'il avait une meuf. Et après, j'ai capté qu'il avait une meuf. Donc j'étais là, ah merde. Et évidemment, voilà, j'ai tout gardé pour moi. Mais j'ai un peu cristallisé de trucs de si ça, ça. En fait, le truc, c'est que j'en ai toujours un peu voulu à mon ex de pas s'être battue pour moi, un peu, et de pas avoir fait le truc. Et du coup, j'avais un peu l'impression que personne allait se battre pour moi, jamais, en fait. Et j'ai un peu cristallisé ça sur les autres trucs, alors que, enfin, il y avait pas de... Voilà, ça avait aucun rapport, et que... Il est pas se battre pour moi, alors qu'il avait déjà quelqu'un. Mais tu sais, c'est pas un truc que je me disais, je veux qu'il se batte pour moi, mais après coup, maintenant, je me rends compte que c'était un peu ce dernier truc, enfin, ce truc-là que j'avais en tête, et ouais, enfin, c'était pas évident. Voilà, il y a eu lui, et en fait, je me suis rendu compte que même lui, qui était pas mon mec, et qui était juste un pote, il me traitait mieux que mon ex. Et pas dans le sens, mon ex est un fils de pute, ou j'en sais rien, enfin, pas du tout. Mais c'est plus dans le sens, ah, c'est possible, en fait, d'avoir ce niveau de bienveillance à ce point, et d'être hypé à ce point par quelqu'un, alors que c'est même pas un truc romantique, c'était vraiment une amitié, etc., de son côté. Et ça m'a aussi aidé à me remettre, quoi, de me dire, bah, en fait... j'ai vraiment des standards sous le sol actuellement et c'est pété à cause de lui, donc j'essayais de... Voilà, c'est comme ça que je me suis un peu remise. Et évidemment, là, le truc de vivre toute seule et d'apprendre à vivre toute seule tranquille et de gérer mes trucs. Le gros truc avant que je parte à Londres, c'était « Mais tu crois vraiment que tu peux gérer ça toute seule, sans moi, etc. » Et en fait, oui. Je me suis très très bien, je m'en suis très très bien sortie, je me sors très bien. J'ai jamais peur de passer des coups de téléphone, je suis très bonne en trucs administratifs. Mon taf, c'est toujours des tafs assez cool, donc enfin je m'en suis très bien sortie et c'est surtout ça je pense qui m'a aidé à me remettre, tu vois, c'est de me dire ah mais tous les trucs que je pensais pas possible, donc être bien traitée ou être hypée par des types même si je suis pas au top etc, même si je suis pas parfaite ou m'en sortir dans des trucs à la con avec mon appart et tu vois tout ça, ben ça m'a vraiment aidé à me remettre.
Mais comment t'es sortie de ce truc de j'en vaux pas la peine, il s'est pas battu pour moi, je mérite pas.
Ah, c'était long ça. Ouais. Ça a duré jusqu'à il y a peut-être un an maintenant. Non, peut-être pas. Peut-être 2 ans, max. Mais
qu'est-ce qui a fait que t'es sortie de ça, quoi ?
En fait, ça s'est beaucoup cristallisé à travers tous les dates, tous les gars qui m'ont ghosté, tous les gars où ça a pas trop marché, etc.
Et comment tu faisais pour faire des dates et genre vivre des trucs un peu difficiles de type on te ghoste et tout, mais continuer à aller à d'autres ?
Mais ça, je suis comme ça, j'aime bien, genre, j'arrive pas, je me dis que si je m'arrête ou que si je déprime et tout ça, ou que je...
Mais il faut le faire quand même.
Bah ouais, mais à chaque fois, je me dis, si je m'arrête, en fait, je vais jamais me relever. C'est débile, mais récemment, ma meilleure pote m'a dit, mais toi, en fait, tu tombes pas au sol, non, elle m'a dit, c'est pas que tu te relèves, c'est que tu tombes jamais, et que je continue à chaque fois, et j'ai toujours été dans une famille qui m'a dit, mais toi tu peux le faire, enfin, tu continues, t'es capable, tu relèves la tête et tu continues. Et j'ai toujours eu ça, et je me suis toujours dit, bah non, en fait, je vais pas aller... En fait, je me suis dit que j'avais tellement galéré pour être à Londres et avoir mes trucs que si je commençais à trop déprimer pour des trucs, bah, après ça allait pas aller. Et c'est comme ça que j'ai même pas réalisé que je faisais une dépression. Et voilà quoi.
Comment t'as fait ? Donc du coup, tu dis que c'est depuis 2 ans que tu t'en es sortie. Qu'est-ce que t'as fait ? Oui, donc tu parlais des dates.
Je pense que... le Covid et le changement. Alors, pour la petite histoire, quand le Covid a commencé, j'étais dans ma coloc de l'enfer où tout le monde était méga négatif, s'engueulait tout le temps. Une des meufs, à chaque fois que j'étais un peu déprimée, me disait « Mais ça, c'est la vie. Hein. Tout est déprimant. » Et tout le temps, tu vois, je me disais « Jamais je deviens comme elle. C'est mort. Je ne peux pas devenir comme elle. » Et en fait, pendant le Covid, donc j'étais coincée avec eux. Eux, ils étaient tous furloughed. Donc, ils étaient payés, mais ils étaient à la maison.
Okay.
Mais ils ne travaillaient pas, du coup. Et moi, j'étais la seule à travailler depuis chez moi. Et c'était vraiment l'angoisse où je travaillais depuis 8h30 jusqu'à genre 19h30. Et il fallait toujours réactualiser le site pour bien dire les trucs de Covid. Blablabla. Et c'était vraiment full stress. Et là, big up à qui notre amie commune, Pauline, qui est quand même... la goutte, la meuf sûre, avait son appart à Londres qui était free à l'époque, qui était vide. Elle était en France pour son pour le confinement avec sa famille et tout ça. Et elle m'a dit, vas-y, en fait, va chez moi. Et je suis restée chez elle pendant quoi, 2 mois, 2 mois et demi, un truc comme ça. Ça m'a trop sauvée parce que j'ai pu juste être loin de ma coloc, goûter au truc d'être toute seule et de m'organiser toute seule, faire ma cuisine toute seule, etc. Pas de faire ma cuisine en 15 minutes, chrono, vaisselle comprise, pour pas être avec les autres. Ouais. Et en fait, depuis là, j'ai postulé chez TikTok et j'ai trouvé le job chez TikTok qui me permettait financièrement de vivre solo. Je suis revenue dans ma coloc, j'ai dit, je reste un mois, je pars. Ouais. Et le deuxième confinement, je l'ai vécu du coup toute seule dans mon appart. Et ça m'a vraiment permis d'être un peu face à moi-même, tu vois. Parce que quand t'es toujours avec tout le monde et toujours, tu vois, dans la vie hyperactive où tu vois tous les gens, tu bosses, tu fais plein de trucs, t'as pas trop le temps d'être toute seule avec toi-même. Et je pense que se remettre d'un gros truc comme ça, ça passe vraiment par apprendre à se tolérer soi. Apprendre à tolérer sa propre compagnie. Et tu vois, il y avait un moment... C'est con, hein, ça va être dégueu, désolé. À un moment, si je pétais chez moi, je me disais, mais voilà, mais c'est comme ça aussi que je suis dégueu. Je vais dégoûter tout le monde quand je pète chez moi, tu vois. Alors que c'est un truc normal. Je suis chez moi, je suis dans ma salle de bain.
Tu teps, bien sûr.
Je teps, exactement. C'est quand même... Si on rappelle, si on ne tape pas, c'est quand même pas bon pour la santé, ça peut faire des problèmes.
C'est vrai. Et il y a une meuf qui est partie à l'hôpital il n'y a pas longtemps. C'était quoi cette histoire?
Ouais, la meuf qui a pas pété pendant un an parce que son mec voulait pas. Et lui, il a rigolé quand il a su.
Ça va, quoi.
mais voilà, et j'avais ce truc de, tu sais, genre, d'apprendre à plus être dégoûtée par moi-même, d'apprendre à refaire des trucs un peu pour le kiff, juste pour moi, de recuisiner. Je me suis mise à faire des trucs parce que j'avais arrêté de cuisiner après Mademoiselle. Voilà. Je me suis mise à faire des trucs, des sashimi de pastèque pour remplacer le saumon, c'est hyper efficace, vous faites mariner sauce soja. Et voilà, ça a été vraiment un gros taf de réapprendre à me kiffer, mais pas juste, tu vois, le truc feel good que tu vois partout, genre kiffe-toi, mais en fait se kiffer, ça passe aussi par juste se tolérer.
Margot, c'est ok de péter.
C'est ok de péter, ok. C'est ok de faire caca.
J'en veux plus, ces trucs, c'est ok. Évidemment que c'est ok, tu vois, ça. Mais dans l'idée de...
Tu sais, tu le fais, okay. T'es là, mais évidemment, je suis la plus dégoûtante du monde entier, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et ben, teubé, quoi. Et voilà.
Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de l'amour que t'avais en partant de Paris et maintenant que t'es actuellement 5 ans après?
En partant de Paris, et même un peu avant, pour moi, l'amour, c'était vraiment, en fait, je savais que j'aimais l'amour, que je voulais être avec quelqu'un, et c'était le but, et si j'avais pas ça, ça allait pas, tu vois, c'était pas la vie que j'avais rêvée, c'était pas ma vision, quoi.
Ouais.
Je pouvais pas être heureuse sans avoir quelqu'un, je pouvais pas être heureuse sans avoir ce projet de machin.
On peut peut-être revenir aussi sur...
Non, vas-y, vas-y.
Pardon, je ris de... ce geste que je viens de faire. sur ton enfance et ton milieu familial, où du coup tes parents sont mariés très tôt, où t'as une éducation, enfin ils sont toujours mariés, ils ont eu 5 enfants, le modèle familial que t'as eu peut-être qui a joué sur ça.
J'ai un modèle familial qui est que mes parents se sont connus à 15 ans en mode pote, ils n'étaient pas du tout ensemble, il n'y avait rien de romantique, au contraire ma tante, la sœur de ma mère, se foutait un peu de la gueule de mon père, genre mon futur beau-frère, mon ex. Et ma mère, captait pas trop, elle était pas du tout dans le mode romantique, blabla. Et puis ils se sont revus vers 19-20 ans, okay, à un dîner. Et ma mère était en haut, mon père a grimpé les escaliers. Et ils se sont vus, au moment où ils se sont vus, leurs yeux se sont croisés. Et ils sont pas arrêté de sourire, ils avaient mal au visage tellement ils ont souri tout le repas. Et 3 jours après, mon père l'a demandé en mariage.
3 jours après?
3 jours après.
Ils sont péchos entre temps ou...
Non. Ils se sont embrassés, c'était le premier baiser de ma mère. Oh. Ils se sont embrassés en mode smack. Et ils se sont fiancés.
Trop.
Ils se sont mariés administrativement, donc pour eux c'était pas un vrai mariage. Ouais. Ils se sont mariés à l'église 1 an après. Okay. Et 1 an après, j'étais là.
Ouais, t'es l'aînée du coup.
Voilà, je suis l'aînée de 5 enfants. J'ai 3 frères, une sœur, 4 frères et sœurs. Et on a. Beaucoup d'âges de différence. On a... J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, un autre frère qui a 9 ans de moins que moi, un autre frère qui a 11 ans de moins que moi, et une sœur qui a 17 ans de moins que moi. Et je les aime trop.
Mais du coup, t'as grandi dans un modèle assez traditionnel.
Dans un modèle vraiment de couple hyper heureux, mes parents super heureux ensemble, qui avaient la même vision de la vie, etc. Mon père qui faisait toujours rire ma mère, mais vraiment jusqu'à ce qu'elle soit à 4 pattes, tu vois. Et ils ont toujours été, tu sais, ça n'a jamais été genre le mari qui aide sa femme, juste. Oh. C'est vraiment, ils se complétaient sur les trucs où ils géraient bien. Et ils sont hyper famille tous les deux, donc c'était le modèle dans lequel j'ai grandi. Et que, tu vois, j'ai vu dans les films, dans les séries, dans les trucs, et c'est ça qui faisait rêver. Un truc de se dire, c'est ça que tu veux, si tu veux vivre le conte de fées, tu veux vivre la comédie romantique, tu veux vivre quand elle rencontre Sally, tu vois. Et en fait, quand j'ai rompu, d'un coup, ça a cassé ce truc-là. Parce que pour mes parents, si t'étais en relation un peu sérieuse, c'est que c'était pour la vie.
C'était, oui, c'était parti, mariage, quoi.
C'est pas que je me suis jamais dit que c'était pour la vie, mais je me suis jamais dit, genre, c'est obligé, maintenant, il faut que je sois que avec lui. Enfin, même lui, on était...
Ouais.
Voilà, on se voit, on faisait des plans, etc. On s'imaginait plus vieux, mais c'était pas... Enfin, j'étais pas non plus dans ce truc. Mais quand on a rompu, ça a cassé un genre de tradition. Et après coup, je m'étais dit, il faut vraiment que je retrouve...
Ouais.
Quelqu'un, quoi. Et j'avais l'impression d'avoir un truc que j'avais mal fait, qu'il fallait que je reconstruise et que je réapprenne ou que je répare, en fait, tu vois, le plus vite possible. Comme et si j'avais cassé un truc et que, voilà.
Ça, ta famille t'a fait culpabiliser un peu de cette rupture?
Au début, un peu, ouais. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait?
Oui, et ce truc de partir, comme tu disais tout à l'heure, tout quitter.
Mais après, quand ils voyaient que j'étais vraiment pas bien, en fait, à la fin de la relation et que... Bon, après, comme mon ex n'était pas catho, ils étaient un peu... ils étaient un peu... C'est peut-être pas même plus mal, mais bon, c'est pas comme si les mecs que je voyais maintenant étaient beaucoup plus catho. Mais maintenant, avec les années, ils étaient un peu... Juste quelqu'un de gentil. Juste quelqu'un de gentil pour Margot. Et non, ils sont trop chauds. Et ma mère, surtout, elle comprend pas mal et elle me soutient beaucoup. Mais ils veulent, voilà, ils veulent le meilleur pour moi. Ils ont toujours été assez exigeants pour moi-même parce qu'ils ont toujours dit « Non, mais t'as du potentiel, tu peux le faire. » Tu gères, quoi, tu t'y vas. Parce que eux, quand ils étaient jeunes, on n'a pas trop cru en eux. Donc pour moi, pour eux, ils étaient là, faut qu'on croit en elle et qu'on lui montre un peu et tout. Et donc pour eux, ils disaient, allez, on se reprend, va dans des, peut-être, tu sais, des groupes de prière, catho, pour rencontrer, peut-être.
C'est bien ton genre, ça.
Ma mère se disait, peut-être un Polonais à Londres, parce que ma mère est polonaise. Ouais. Elle disait, peut-être les groupes de Polonais à Londres, tu pourrais rencontrer.
Sur Facebook.
Les Irlandais sont catho, souvent. Et ça fait trop mignon, mais tu vois, ils essayaient un peu de... Pareil, tu vois, de me refaire rentrer dans le moule, même s'ils comprenaient complètement que j'ai rompu. Mais après, en voyant tout de même un peu mes galères et les trucs de... En voyant que je gérais toute seule, déjà, et que je devais toujours... Que je m'occupais toujours de moi-même et de ma vie, etc. Ils se sont dit, vas-y, elle mérite d'être heureuse, même toute seule, quoi. Et là, ma mère m'a dit, mais c'est très bien. Mais profite, tu as assez donné, maintenant c'est à ton tour de profiter un peu de la vie, ne pas avoir d'enfants tout de suite. Ça par contre, ça c'est un truc, mes parents ne m'ont jamais dit, et des enfants jeunes ou quoi, et au contraire, ma mère m'a toujours dit, non, prends ton temps, voyage, travaille avant, vis ta vie, un peu de femme et tout ça, pas en mode, évidemment mes parents étant plutôt tradis, pas en mode profiter, il y a plein de mecs, mais plutôt dans le sens, voilà, profite de la vie sans gosse, quoi.
Là, actuellement, t'as quelle vision du couple?
J'ai une vision, c'est cool si ça arrive et ça ajoute un plus, mais j'en ai plus tant besoin. Je me dis, c'est sympa parce que les dates, c'est toujours sympa, les trucs un peu romantiques, c'est toujours sympa, mais je me dis pas, tu vois, j'en ai besoin pour vivre et tout, quoi. Là, j'ai un salaire qui me permet de vivre toute seule confortablement, de me débrouiller toute seule. Et avant, tu vois, il y avait un peu ce truc de ce serait pas autant la galère si j'étais pas célibataire, tu vois. Genre, ce serait pas autant la galère pour partir en vacances si j'étais pas célibataire, ce serait pas autant la galère pour, je sais pas, trouver un appart si j'étais célibataire, etc. Et en fait, maintenant, en fait, c'est affreux, mais l'argent achète le bonheur. Non, l'argent achète le couple. Vraiment, en fait, quand tu gagnes assez ta vie pour pas avoir besoin de mecs pour emménager quelque part ou pas avoir besoin de mecs pour partir en vacances quelque part parce que tu peux te payer les taxis, tu peux te payer les machins comme ça, ben automatiquement t'es un peu, là le chien de Léa me lèche le tibia en même temps que je raconte ça, trop mignon. Et ben tu vois, tu te dis passer ce truc matériel de se dire, et j'ai jamais daté des mecs en me disant ils vont me payer des trucs, mais c'est plus le truc de
du confort,
tout a toujours un peu
deux,
reposé sur moi, dans ma famille, dans mes trucs. Tout est, je me bats un peu pour tout, tu vois. Et il y avait un peu ce sentiment de je me bats tout le temps pour vivre, pour survivre, pour payer mes trucs. Et personne ne se bat pour moi. Et puis en fait, à partir du moment où tu te bats pour toi-même, voilà, tu te dis, en fait, c'est ça. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un se batte pour toi sans que tu te battes pour toi avant aussi. Quoi.
Est-ce que tu as des moments quand même où tu te dis, putain, ce serait bien d'avoir quelqu'un avec moi, me manque un peu?
Ah bah ouais, mais c'est ça. En fait, je pense que c'est aussi un truc hyper important de pas faire genre j'en ai pas besoin, j'en veux pas.
Ouais.
Parce qu'il y a une différence entre. En fait, il y a une différence entre j'en ai pas besoin et j'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, techniquement, non, j'en ai pas besoin. Mais oui, j'en veux. Et je pense que y a, tu sais, cette culpabilité de genre si t'en veux, ça fait un peu genre mauvais féministe, genre tu qui dépend d'un mec ou j'en sais rien. Et en fait. Ben oui, j'en veux, en fait. Enfin, j'aime bien avoir les trucs romantiques, j'aime bien les histoires cool, j'aime bien qu'on s'occupe de moi, et j'aime bien voilà, les histoires d'amour, j'aime trop l'amour, j'aime trop écouter les gens qui parlent d'amour, j'aime trop ce podcast. Hein. mais je suis plus dans le truc de si j'en ai pas, je vais être malheureuse, quoi. J'aime bien ma vie comme elle est, j'aime bien avoir des trucs. Et si ça se passe, c'est cool. Si ça se passe pas, bon bah, tant pis, parce que je préfère vraiment être heureuse solo que, tu vois, de me torturer à tester des trucs et à forcer le truc qui vont pas se passer, quoi.
Est-ce que le truc d'avoir une carrière là qui est florissante, c'est le mot, là depuis que t'es arrivée à Londres, t'as quand même eu des jobs hyper cool et t'es surtout montée, enfin t'as monté des échelons sur plein de domaines au niveau de ton travail, au niveau de ton salaire, au niveau de ton confort. Est-ce que ça joue par rapport au fait de pas avoir de copains, de pas être en couple en ce moment? Est-ce que ça a une importance sur toi, ta confiance, tu vois, d'avoir ces boulots-là?
Complètement, parce que quand je suis partie, j'ai eu des remarques un peu de l'entourage général, tu vois, des trucs, mais tu crois vraiment que tu vas t'en sortir sans un mec, vas-y, va faire serveuse à Londres, des trucs comme ça qui font, tu vois, qui sont vraiment, déjà, bon, non pas qu'il y ait aucune honte à faire serveuse, évidemment, n'est-ce pas, mais c'est pour dire le mépris de cette remarque, des choses qui faisaient que je me disais, c'est pas, je sais pas si je vais vraiment m'en sortir professionnellement à Londres, est-ce que ça va être vraiment un truc de ouf, et puis en fait... Je me suis prouvée à moi-même que je pouvais m'occuper de moi-même, que je pouvais gérer et que je pouvais même gérer professionnellement, même quand je suis déprimée. Et donc, quand je ne suis pas déprimée, je gère encore plus. C'est comme ça que je chope des boules cool. Et voilà, c'est vraiment un truc de confiance en soi et de « Hey, je l'ai fait toute seule, qu'est-ce que je peux faire d'autre toute seule ?» tu vois.
Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de romantique ?
Romantique.
Je crois que c'est la réponse. Ah, romantique.
Je pense que j'aime bien... Tu vois, j'aime bien les trucs d'amour et les trucs... Bah, j'aime bien les trucs romantiques, mais après, j'ai un peu cette vibe, tu vois, en Angleterre, ils disent « no nonsense ». Et je suis un peu de... on va pas commencer à parler de trucs qui peuvent pas se passer ou qui sont irréalistes et tout. Je vois les choses comme elles sont. J'aime bien regarder des trucs romantiques maintenant et voir des trucs romantiques, mais je les applique pas toujours à ma vie, parce que sinon, voilà, après j'ai des fausses attentes. Mais après, j'ai vu, il y a pas longtemps, j'ai vu un tweet où une nana disait... ne croyez pas les losers qui vous disent que les trucs romantiques, c'est pas réel, que c'est pas machin, parce qu'en fait, c'est juste une excuse pour faire le strict minimum, et que en fait, ça existe vraiment les mecs et les meufs qui sont super romantiques, et qui sont trop sympas, et tout ça, et que faut pas... Voilà, je me dis pas que ça existe pas, etc., mais j'ai aussi ce truc de... je sais pas, j'essaye d'aussi rester les pieds sur terre, parce que dans le passé, j'ai été trop romantique, je pense, et maintenant, je pense que je suis plus une romantique avertie, mais j'aime bien quand même les trucs romantiques.
Et est-ce que c'est pas parfois la peur d'être déçue par la suite qui fait que tu te blindes aussi
Complètement. C'est un truc... on m'a toujours dit, mais cette fois-ci, à chaque fois que je datais un mec, j'étais un peu contente, on me disait, protège-toi cette fois-ci, mais vas-y, il y a un tuto pour se protéger. J'ai regardé sur WikiHow, il n'y avait pas.
Ah, de ouf.
Il n'y a pas comment protéger son petit
cœur. Après, c'est les potes, tu vois, qui sont là, protège-toi et tout.
Mais ouais, voilà.
Et quand
exactement.
Tu reçois ça, t'es là, genre, je c'est sais, ça. Mais
et
c'est
tu,
chaud.
Et tu dis ça pour toi, tu vois, tu dis toi-même, ok, cette fois, je me protège. Mais c'est pas si évident que ça. Et je pense que c'est un vrai travail de réussir à se blinder, mais tout en restant vraiment fidèle à soi-même, tu vois. Parce que c'est ça aussi que je veux pas, tu vois, de ne pas devenir moi-même. Parce que c'est ça, à la base, t'es censé kiffer. Et si tu kiffes plus, si tu restes de marbre et que tu t'élimines tous tes sentiments et tout, bah à quoi ça sert, tu vois. Autant, bah, plus d'été, si t'as pas envie de romantisme, si t'as pas envie de trucs qui font kiffer, de tu vois, de petits gestes sympas et tout ça, ben, c'est pas la peine. Donc, y a vraiment tout ce truc de réussir à se protéger, mais en même temps, rester fidèle à soi-même, qui est pas évident toujours, mais que je pense que je commence à atteindre, de juste, en fait, vouloir des moments qui font plaisir, et si ça tourne à un truc cool, tant mieux. Sinon, bah, c'était pas censé être là, et je suis contente d'avoir eu des trucs cool, et puis je passe ma route, tu vois. Je ne fais que passer.
Qu'est-ce que tu dirais à la toi de 20 ans, 10 ans après ?
Oh là là, la pauvre. Elle se dit, c'est bon, j'ai trouvé l'amour, je suis si heureuse. Tu dirais que rien ne va comme prévu, mais que c'est pas forcément mauvais. Qu'elle peut se débrouiller toute seule, et de toujours un peu faire confiance à son instinct. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où j'avais peur, tu vois, je me disais, est-ce que c'est mon anxiété, est-ce que c'est mon instinct? Et il y a eu plusieurs bails, tu vois, où je me disais, non, je vais quand même me forcer à aller à tel endroit, ou à parler à ce mec qui est sympa, parce que ça se trouve, je suis en train de passer à côté d'un truc, et que toi, toute la société te dit, mais non, mais fais un effort, au pire, ce sera une mauvaise histoire. Bah, en fait, non, tu vois, genre...
Ouais, je le sentais...
Des trucs, quand tu le sens pas, le fais pas. Et aussi, tu peux te débrouiller toute seule, t'inquiète. tu peux vraiment te débrouiller toute seule.
Ce truc, enfin, ça revient souvent depuis qu'on enregistre. Ce truc de se débrouiller toute seule, pourquoi tu l'as autant en tête?
Je sais pas, je pense que c'est un peu un truc de j'avais peur de pas être assez pour moi-même, j'avais peur de pas être assez dans mon ancienne relation. Et j'avais peur de pas gérer pour moi, quoi, du coup. Alors que je me suis toujours débrouillée, en plus, même avec mes frères et sœurs, tu vois, j'étais toujours la deuxième maman et tout, et je sais pas pourquoi ça m'a autant... Avant de partir à Londres, avant de décider de partir à Londres, j'étais vraiment... J'avais l'impression d'être nulle à chier. Que j'avais.
Mais il y a peut-être ce truc aussi où t'as emménagé, du coup, ton premier emménagement où t'es partie de chez tes parents.
Ouais.
Tu t'es mise en couple, donc vous louez un appart ensemble. Il y avait une répartition des tâches, etc. Mais du coup, t'as connu que ça. Tu t'es pas connue, toi, toute c'est seule, ça. À gérer un appart, à gérer les factures, je sais pas. Tu vois, tous ces trucs d'adulte, c'est un petit peu. C'était partagé avec lui.
Et je pense que c'est un peu un truc d'avoir peur d'être retrouvée qu'avec moi-même, parce que... Je me disais, ok, si on apprend à me connaître, on capte qu'en fait je suis nulle, donc ça veut dire que je suis nulle. Est-ce que moi, tout seul avec moi-même, ça va pas être, tu vois, de la merde, quoi. Et je pense que j'avais pas mal de ça, et de me dire, est-ce que je vais encore foirer un truc, j'ai foiré une relation, j'ai foiré un truc, donc est-ce que je vais foirer ma vie après, quoi.
Et maintenant ?
Et maintenant, écoute, pas du tout. j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup mes amis. J'aime beaucoup mes petits bails de ci, de là. Et voilà, j'aime trop ma famille. J'aime bien ma vie. J'aime bien l'avoir construit moi-même, tu vois, et avoir admiré tout le taf que j'ai fait et voir un peu la route qui se présente à moi, quoi.
C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, à une meuf qui écouterait, par exemple, et qui hésiterait à... Peut-être pas tout plaquer comme tu l'as fait, parce qu'il y a eu tout. Il y a eu la rupture amoureuse, le travail, un déménagement, mais voilà, qui hésite un petit peu à changer de vie et sortir d'une relation finalement où elle sent que ça va pas trop. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ?
Alors ça me fait trop rire parce que avant de partir à Londres, j'avais fait une vidéo. Non, une fois que j'étais arrivée à Londres, j'avais fait 6 signes qu'il est peut-être temps de rompre ou que c'est...
Okay.
La rupture est envisageable. Et j'étais encore un peu mûre, tu vois. Enfin, j'étais encore un peu verte plutôt.
Oui.
J'étais encore, tu vois, pile après le truc, donc j'étais
très
pas
récent,
assez.
Ouais.
Voilà. Et alors, c'est marrant parce que j'avais vraiment deux écoles de commentaires. Soit, mais quelle énorme salope qui se permet de rompre avec son mec. Et vraiment, mais
ah
et
ouais,
là, je te dis un truc gentil, mais vraiment, j'ai encore des commentaires maintenant, de commentaires affreux. Mais j'ai aussi encore des commentaires sympas. J'avais des commentaires genre, mais évidemment qu'il faut rompre quand il y a ces trucs-là, mais ça va pas, non? Et moi, j'étais, ah bah non, en fait, c'est pas toujours évident pour tout le monde.
Bien sûr.
Et j'avais surtout plein de meufs qui m'ont dit « Merci, j'ai rompu après avoir vu ta vidéo !» Et donc, je me suis sentie trop mal. J'avais l'impression que j'avais cassé les...
Ouais.
Mais en fait, s'ils allaient rompre, c'est que... Tu vois, ils auraient rompu de toute façon. C'est quand même pas... Les gens ne sont pas stupides.
Ça peut être accéléré juste quelque chose.
Mais je dirais, écoutez votre instinct. Écoutez, vous pouvez faire... Si vous mettez au truc et tout, vous pouvez vous en sortir tout seul. Vous pouvez... Enfin, pas en mode ne pas demander d'aide à qui que ce soit, mais plus... Ouais. C'est pas un truc de couple qui va faire que... Vous réussissez votre vie à tout prix. D'abord, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi, tu vois. Et moi, je dirais, voilà, tu suis son instinct et que parfois, on a déjà pris la décision sans le savoir. Et la petite astuce que j'avais lue, c'était de tirer à pile ou face pour une décision. Et que si on n'est pas content du résultat, c'est que c'était l'autre truc.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est ce que je dirais, je pense. J'ose plus dire cassez-vous, mais
ouais.
C'est un peu le prix. Si, franchement, si c'était fait pour se passer... Ça se passera. Si ça se passe pas. Voilà.
Ça se passe pas.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Passe le message à ton voisin.
Passe le message à ton voisin et à ton mec que tu vas larguer. Écoute.
Trop bien.
De suivre son instinct, de suivre. Et de se rappeler que le meilleur n'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme de vouloir le best. Et là, et en plus, je l'ai même pas encore. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir le best pour moi. Et je le mérite, quoi.
Et tu pourras avoir le best plus plus.
Voilà, je mérite le best plus plus. Ça met longtemps à se dire ça, et vous méritez aussi le best plus plus.
Je vous remercie.
Voilà. À part si vous êtes Laurie de ma classe de 3e. Non, je vous laisse.
Horrible.
Si tu nous écoutes, Laurie.
Merci beaucoup, Margot.
Merci, Léa.
Ça m'a fait plaisir, parce que du coup, j'ai un condensé des 5 dernières années de tes histoires d'amour. Genre, trop bien. Et t'as trop géré, franchement. Tu m'impressionnes.
Je ne sais pas quoi dire parce que quand on me fait des compliments, je suis gênée. Mais... Merci beaucoup. Léa connaît tout. Léa a tous les messages vocaux de chaque date, chaque truc un peu.
J'ai les photos. J'ai les photos de tous les cas. Elle a les stalks. Et je valide. Non, je les stalk.
Les profs. Non, c'est moi qui stalk. Ah, oui. Et je t'envoie les screens de Facebook.
Oui, et je valide. Je dis...
Ça, boss. C'est son ex-femme. Ça, c'est
ça. C'est l'école de son
ça
fils.
Va trop loin. Non,
pas du tout.
Merci Margot.
Merci Léa. Je te souhaite tout le meilleur. J'espère avoir un update. Je pense que je l'aurai.
Tu auras un
on
update.
On pourra peut-être partager.
Margot est maintenant mariée avec le prince Harry qui a quitté Meghan. Pour... Tu auras l'update. Merci Léa.
À pour bientôt. Roser.
Bisous.
Dans un nouveau vlog.
Bisous. Bisous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.